Le message qui va suivre vous est présenté par le Centre Christ en Action Évangélisation. Nous prions qu'à son écoute, votre vie sera transformée. Que le Seigneur vous bénisse.
Ce matin, j'aimerais bien vous dire quelque chose que le Seigneur m'a mis. Je l'avais commencé le mercredi. Construire notre être intérieur. Qui est là? Je disais qui est là? Oh, que Dieu me fasse grâce ce matin, afin que je puisse dire ce qu'il faut. Que le Seigneur me fasse grâce, que le Saint-Esprit me fasse grâce, et qu'il m'aide afin que j'aie la facilité d'expliquer ce que Dieu veut que chacun puisse entendre ce matin. Vous savez, c'est une responsabilité, je vous l'ai dit, c'est une grosse responsabilité d'être ici tous les dimanches et parler de la part de Dieu. Pas parler de Dieu, mais parler de la part de Dieu. Pourquoi? C'est parce que je le sais, je suis conscient qu'un jour, je me tiendrai devant Dieu. Je me tiendrai devant Dieu. Pourquoi je me tiendrai devant Dieu? Parce que premièrement, Dieu m'avait parlé de commencer l'église. Et comme c'est lui qui m'avait demandé de commencer l'église, un jour, je dois lui rendre des comptes pour chaque personne qui vient écouter la parole de Dieu ici. Je dois lui rendre des comptes parce qu'il me confie vos vies. Et comme il me confie vos vies, c'est pourquoi moi je n'ai pas le choix que d'avoir une vraie relation avec Dieu et de parler. Je me souviens, un jour je méditais sur la vie de Jérémie. Jérémie était un des grands prophètes, parce que dans la Bible, quand vous lisez les grands prophètes, il y a des petits prophètes et il y a des grands prophètes. Cela ne veut pas dire qu'ils étaient petits parce que Dieu voulait qu'ils soient petits, non, mais c'est comme ça. Et parmi les grands prophètes, quand vous lisez dans l'Ancienne Alliance, pour ceux qui aiment lire la Bible, vous allez voir qu'Ésaïe était un grand prophète. Jérémie était un grand prophète. Ézéchiel était un grand prophète. Et puis ainsi de suite là. Et tous les restes, on parle de petits prophètes. Mais quand je regarde le prophète Jérémie, Jérémie a mené une vie horrible. Il a tellement souffert. Quand vous regardez comment la vie d'Ésaïe a fini, la vie d'Ésaïe, mais lui, on l'a scié. Et quand vous regardez bien, qui sont ceux qui l'ont scié? C'est des Juifs, ses propres compatriotes. C'est ses propres compatriotes qui l'ont scié. Vous savez qu'il y a d'autres prophètes qu'on a jetés dans l'huile bouillante. Et qui sont ceux qui les ont faits? C'était ses propres compatriotes, des Juifs. Mais quand je regardais bien la vie de Jérémie. Jérémie, à un certain moment, quand il parlait, ses compatriotes qui recevaient les messages, ils disaient, allons, écoutons-les. C'est un bon chanteur. On l'appelait un bon chanteur. Vous voyez, il prêchait bien. Il disait, c'est un bon chanteur. Allons, écoutons-le parce qu'il chante bien. Ça veut dire qu'il prêche bien. Mais ne mettons pas en pratique ce qu'il dira. C'est grave, ça. Et regardez, l'homme n'a pas changé. Lisez les livres de Jérémie, vous allez voir. Les Juifs disent, non, allons, écoutez-le. Il parle bien, mais ne mettons pas en pratique ce qu'il dira. Et malheureusement, il y a des moments, parfois, Jérémie voulait tout abandonner. Il disait, Seigneur, j'ai l'envie de fermer ma bouche. Mais au fur et à mesure, je voulais fermer ma bouche. Il y avait comme un feu qui consumait mon cœur. Et je n'avais pas le choix que de parler. Tu te rends compte? C'est un travail difficile. Et l'homme n'a pas changé. Mais tout ce que j'ai toujours dit, je ferai tout mon possible par la grâce de Dieu, tant que Dieu me donnera encore la vie, d'enseigner la parole de Dieu dans toute la sincérité, de me discipliner, afin que... Vous savez, il y a des moments, je vais vous dire la vérité. Chut, secret. Je vais vous dire la vérité. Il y a des moments, même moi-même, je suis gêné. Je vous l'ai dit. Je vous dis quelque chose que je ne vous ai jamais dit. Il y a des moments, moi-même, je suis gêné de dire des choses que moi, humainement, naturellement, je n'avais pas l'envie de dire. Je vous l'ai dit, je vous dis, c'est la première fois que je vous dis ça. Il y a des moments, je suis ici, je suis devant un combat, parce que je suis humain. Je n'ai pas l'envie de dire des choses, mais c'est tellement fort, je sens le Saint-Esprit parler. Et je me dis que si je ne dis pas, moi j'aurai des problèmes. Vous savez, il y a des moments, parfois, des choses qui se disent ici, je ne l'ai pas préparé, je ne l'ai pas prémédité. Mais Dieu te dit, tu parles de ma part, parce que je connais chaque personne. Vous savez, je n'ai pas une vie moi. Moi, j'ai une vie plus. Moi et Dieu. Et je suis un assoiffé de Dieu. Et quand je vais passer parfois de nuit à chercher la face de Dieu, du Seigneur, tant que tu ne me dis rien, je ne parlerai pas. J'aime ça. J'aime ça. C'est pourquoi je suis un danger. Je peux vous dire que je suis un danger pour toi. Je suis un danger pour toi. Je vais vous dire la vérité. Je suis un grand danger pour toi. Parce que comme moi, je passe, je fouille la présence de Dieu et que je reçois et que je te le largue. Si toi, tu ne le reçois pas, je deviens un danger pour toi. Parce que je suis témoin. Et je serai témoin. C'est ça le grave problème. C'est que si j'étais quelqu'un qui vivait dans l'aventure, ça allait être autre. Mais moi, je ne connais pas l'aventure, les amis. Je ne connais pas l'aventure. Depuis que j'ai donné ma vie à Jésus, ça fait 30 ans, je n'ai pas essayé. Mais quand j'ai donné ma vie à Jésus, je l'ai accepté comme Seigneur et Sauveur. Je n'ai pas été quelqu'un qui a essayé et puis retiré et puis... Non, moi, je ne connais pas ça. Ça fait 30 ans. Et je suis parti avec une vitesse jusqu'à aujourd'hui où vous voyez. Et j'ai toujours dit, je n'ai pas l'envie de ralentir. Jusqu'au jour, si Jésus traîne de revenir, entre les années 87 ans là, je sais, entre 87 ans, parce que je ne peux pas mourir avant 87 ans. À partir de là. Dans les parages des années 87 ans et plus là, je dis toujours, si le Seigneur tarde à revenir, après que ça, à condition que ça soit un autre plan de Dieu, béni soit le nom du Seigneur, parce que la Bible dit que les hommes forts doivent vivre 70 ans, et les plus forts, mais lisez la Bible, 70 ans, Dieu dit que tu dois vivre 70 ans. Et le plus fort, alors que nous sommes le plus fort en Christ, on doit aller au-delà. Je ne sais pas si vous comprenez de quoi nous parlons. C'est pourquoi David a dit, je ne mourrai pas, je vivrai. Vous savez, est-ce que vous croyez qu'un petit sorcier peut arrêter une révélation de Dieu? Non. Les amis, non. Mais c'est pourquoi, maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut marcher selon le plan de Dieu pour que tu aies l'accomplissement de ce que Dieu dit. Parce que tu peux déclarer des versets, mais si ta vie ne se concorde pas, tu risques même de te retrouver hors du plan de Dieu. Toi-même, tu t'es mis dehors. Qui comprend ça? Alors les amis, je suis là pour votre bien-être. Je serai toujours là pour ton bien-être. Je vous l'ai dit sans cela, je continuerai à réparer mes frigos, à ranger les thermostats, tout, que je connais. Mais si vous ne voyez pas, je fais le froid engineering, les amis. Alors voyez-vous que Dieu m'a dit non, ce n'est pas ce froid engineering. Et toi, tu es appelé à parler de ma part. Sinon, je serais derrière le frigo là, en train d'arranger les chambres froides, là, tout ça. Ça serait bien, là, je n'ai pas de problème. Sauf les thermostats qui font défaut, tout ça. Mais si on a dit oui à être en face de vous et vous parler de la part de Dieu et puis accepter tout ce que les gens peuvent dire, mais c'est parce que Dieu est plus fort. La Bible dit, vos voix ne sont pas ses voix. Tes voix. Il y a d'autres choses où Dieu va te diriger. C'est pourquoi il faut être flexible avec Dieu. Dites à la personne à côté de toi, apprends à être flexible. Apprends à suivre sa voix. Et non pas tes voix. Bâtir ton homme intérieur. Construire. Il y a tellement de choses à dire. Les amis, j'ai beaucoup de versets à vous donner ce matin. J'ai beaucoup de versets à vous donner. Et j'aimerais bien continuer le message que j'ai commencé le mercredi. Construis-toi dans ton homme intérieur. Dites à la personne à côté de toi, construis-toi dans ton homme extérieur. Dieu dit, construis-toi, mais dans ton homme intérieur. Depuis le mercredi, j'ai commencé cela. Et j'aimerais bien demander au Saint-Esprit, Saint-Esprit de Dieu, je te remercie parce que c'est toi qui es le grand professeur par excellence. Je te demande de m'aider, mettant un frein sur ma langue, afin que ce qui vient de toi sorte. Saint-Esprit de Dieu, parle à moi, parle à chacun de nous. Édifie-nous et glorifie-toi. Glorifie le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Qui sait que quand nous acceptons Jésus, Dieu commence un travail dans notre vie? Ah non, il y a d'autres qui n'ont pas levé les mains. Je dis, qui est celui qui sait que quand tu acceptes Jésus, Dieu commence un travail dans sa vie? Maintenant, dites à la personne à côté de toi, mais faut pas m'en vouloir parce que Dieu a commencé, il va l'achever. Dis-lui. C'est parce que quand on commence à construire une maison, ce n'est pas le même jour qu'on a posé les fondations directement qu'on termine. Non. Mais on prend le temps de mettre la fondation, on prend le temps de continuer à mettre le niveau pour regarder si la fondation est bien faite. Parce que la grandeur, la force d'une maison dépend de la fondation. Même le poids qui va rentrer dans un immeuble dépend de la force de la fondation. Et c'est ça. La fondation est quelque chose de très important. Quand la fondation est mal faite, moi je vis dans des pays pas ici, dans nos pays, des maisons parfois de 2-3 étages. Mais quand vous regardez la fondation, ça n'a pas été fait selon les normes. Et quelques temps après, vous voyez des fissures partout. Et quelques temps après, on dit, les gens ne peuvent plus y habiter. Pourquoi? C'est parce que les gens qui ont mis la fondation, vous savez, n'importe qui parfois peut s'hasarder et dire, je vais construire. Mais est-ce que tu construis selon les normes? Et dans nos pays, parfois, on construit non pas selon les normes. Et les gars, vous voyez un peu le risque. Le risque qu'il y a même des habitants qui vont habiter dans cette maison. Et même dans notre vie, s'il n'y a pas une vraie fondation, si la fondation n'est pas solide, vous mettez en danger même tous ceux qui sortiront de vous. Tu mets en danger. Si ta fondation avec le Seigneur n'est pas durable, n'est pas forte, si ta vie n'a pas une vraie base, tu mets en danger même tes enfants et les enfants de tes enfants. Est-ce que vous savez que beaucoup de personnes aujourd'hui, vous voyez les Américains, beaucoup de personnes sont bénies. Ces gens-là, quand vous regardez bien, vous voyez que parfois ce n'est pas eux qui ont fait des efforts. Mais vous voyez, en écoutant leur histoire, tu entends que mon grand-père était chrétien. Et mon arrière-grand-père est arrière-arrière, tu entends. Il est parfois cinquième dans la génération. Des personnes qui ont eu un attachement avec Dieu. Et à cause de cela, ça commence à couler comme du lait. Les autres là, les enfants qui naissent, ils ne fournissent aucun effort. Tu vois, ça coule. Et surtout si leurs ancêtres étaient des hommes et des femmes qui n'étaient pas des aventuriers, qui portaient des Bibles, mais qui vivaient autre chose. Mais si c'était des personnes qui savaient se prosterner devant Dieu, sincèrement, je vous le dis que la génération qui leur suit, le diable ne pourra rien faire. C'est pourquoi toi qui es là, vous savez, j'ai toujours dit, nous, on est parfois le persan. Quand je dis le persan, c'est mon exemple dans ma famille. Je suis la première personne qui a accepté Jésus. Quand je regarde toute la génération, je suis la première personne. Tu vois, maintenant, tu es dans une famille où c'est toi qui viens de commencer. Les amis, tu vois que tout est dur devant toi. Tout est comme des birets de fer. Tout est comme des blocs de béton, si c'est des combats de personnes. Parce que tu, n'y a personne qui a effrayé la route pour toi. Tu es obligé toi-même de t'effrayer un chemin. C'est pourquoi je suis obligé de prier derrière. C'est pourquoi il faut que je croie, je dois croire, je dois proclamer. Et les amis, parce que c'est comme ça. Il y a d'autres personnes, vous allez voir les enfants, et ils viendront, ça sera cool. Parce qu'ils ont grandi dans une atmosphère. Ils vont mouvoir dans une plateforme qui a déjà été faite. Et la gloire de Dieu, la miséricorde de Dieu, la compassion de Dieu ne fait que couler. C'est pourquoi, les amis, s'il vous plaît, je vous en supplie, quand tu viens ici, ne viens pas à l'aventure. Tu penses que tu aurais pu voir mon nez ici avec ma tête si Dieu n'avait pas planifié ça? Mais il faut te poser la question, pourquoi tu es en face de moi? Tu me regardes. Dieu savait que tu devrais être là. Et dans la logique de Dieu, dans le plan de Dieu, Dieu avait tout planifié. Maintenant, passer à côté, c'est passer à côté de ta destinée. Et je vous l'ai dit, beaucoup de personnes passeront à côté de leur destinée. Lisons. Dites encore, je vais bâtir mon homme intérieur. Par la foi. Lisons un peu dans Ephésiens chapitre 3, Verset 16. Ephésiens 3, verset 16, c'est ça. Continuons. Il dit, c'est afin... Non, montez un peu plus loin, verset 15. Duquel tire son nom toute famille dans le lieu, dans les cieux et sur la terre. Continue, verset 16. Afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par... Dans... D'être puissamment fortifié par le Saint-Esprit dans son homme. Gardez bien, mettez le doigt dans son homme, dans l'homme. Dire la Bible dit ici que nous sommes appelés à être puissamment fortifiés par qui? Par le Saint-Esprit. Où? Dans l'homme. Gardez-moi, trois choses. D'être puissamment fortifié. Dire le plan, ici l'apôtre Paul parle à des chrétiens d'Éphèse en disant, vous qui avez accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, Dieu ne vous appelle pas à vivre. Dieu ne vous appelle pas à être des faibles. C'est pourquoi la Bible dit que les faibles disent je suis fort. L'apôtre Paul parle aux chrétiens d'Éphèse en disant, Dieu ne vous appelle pas à être des faibles. Mais je vais vous dire un secret. Il dit, afin que vous, qu'il vous donne selon sa richesse de sa gloire, d'être puissamment. C'est Dieu qui nous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment. Il ne dit pas d'être moindrement, mais il dit d'être puissamment fortifié par son Saint-Esprit dans l'homme. Dire, il y a un homme intérieur en toi. Il y a un homme intérieur en toi. Ça veut dire qu'il y a un homme. Dites un homme. Ici, nous voyons tout droit, on parle de l'homme intérieur. On ne parle pas de l'homme extérieur, mais on parle de l'homme intérieur. J'aimerais bien que vous me suivez. Ne soyez pas distrait, même si des pensées te disent de sortir dehors, parce que tu n'as pas rappelé celui qui t'a rappelé. Dis-lui, s'il vous plaît, ne m'embête pas. La parole de Dieu ici nous parle d'un homme intérieur, l'homme intérieur. On ne parle même pas ici de l'homme extérieur, parce que l'homme extérieur, c'est ce que nous voyons ici. La chair ici, c'est ce que tu peux voir. Mais la parole de Dieu nous parle d'un homme intérieur, mais qui doit être puissamment fortifié. Ce qui veut dire que cet homme intérieur doit être fort. Cet homme intérieur, dans le plan de Dieu, Dieu veut que cet homme intérieur que tu es doit être fort. Maintenant, qui est cet homme intérieur? La Bible dit, dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 7, la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle... Voici l'homme intérieur. Il dit, si quelqu'un a accepté Jésus, si quelqu'un a donné sa vie à Jésus, si quelqu'un a dit à Jésus, Jésus, viens dans ma vie, je te donne ma vie. Beaucoup de personnes, vous savez, ils viennent tous les dimanches à l'église, mais ils ne connaissent pas si réellement ils ont invité Jésus dans leur vie. C'est pourquoi ces gens-là marchent de conflit en conflit. Parce qu'ils ne sont même pas sûrs s'ils sont nés de nouveau. Ils ne sont même pas sûrs s'ils ont invité Jésus dans leur cœur. Dès que tu acceptes Jésus comme Seigneur et Sauveur, la Bible dit que tu deviens une nouvelle personne. Dans l'autre version, il dit, tu deviens une personne qui n'a jamais existé. Hello? Pour Dieu, quand tu donnes ta vie à Jésus, tu es une personne qui n'a jamais. C'est pourquoi la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, si quelqu'un est en Jésus, il est une nouvelle créature. Il est une nouvelle création. C'est pourquoi, même quand les gens vous disent, ah non, je le connais lui. Tu connais le corps, mais la vraie personne, tu ne le connais pas. C'est ça. Les gens vous connaissent seulement et les gens vous jugent, les gens vous voient seulement d'une manière physique. Ah, je connais, on a étudié avec lui. Ah, je le connais. Ah, je le connais. Ah, il a fait ça. Ah, je le connais. Dis, exactement. Regardez-moi. Quand tu passes devant un appartement, tu deviens devant une maison. Tu peux dire, parfois tu connais la maison parce que tu vis dans les quartiers. Mais parfois, tu ne connais pas vraiment la vraie personne qui est à l'intérieur. Il faut bien faire la différence entre la maison et la personne qui vit à l'intérieur, qui est là. Et notre corps, c'est comme une maison. Mais la vraie personne, on parle de l'homme intérieur qui est né de nouveau. C'est pourquoi il dit que vous êtes de nouvelles personnes. Vous êtes une nouvelle personne. Et quand tu sais que tu es une nouvelle personne, normalement ta façon de voir doit changer. Avez-vous déjà vu un bébé? Allez à la maternité. Tu arrives là, tu trouves un bébé. En bas, c'est un bébé. Ah, ce bébé, je le connais. ce qu'elle a fait. Attends, un bébé n'a pas dépassé. Un bébé n'a pas dépassé. Quand tu vois quelqu'un arriver à côté du berceau de ton enfant, tu dis, ah, je l'ai vu un jour en train de voler des œufs. On te dira, mais non, il y a quelque chose qui ne va pas. Parce qu'un bébé n'a pas dépassé. Regardez comment Dieu nous voit. Quand tu acceptes Jésus, tu es né dans la famille de Dieu. Pour Dieu, tout ton passé est oublié. Même si les gens viendront toujours te rappeler ce que tu as fait. Mais pour Dieu, te dit, mais de quoi vous parlez? Parce qu'il est une nouvelle personne. C'est pourquoi il ne faut jamais jouer avec ta nouvelle naissance. Et non seulement ça, ne vous collez pas, ne vous laissez pas intimider par des personnes qui viendront toujours avec votre passé. Les gens viendront toujours avec votre passé. Les gens qui ne connaissent, même, parfois même sont dans les églises, mais comme ils ne connaissent pas la profondeur de la parole de Dieu, comme ils ne connaissent pas la révélation de la parole de Dieu, c'est pourquoi il y a trop de problématiques dans les églises. Parce qu'il y a d'autres qui sont encore dans un niveau A, et ils ne sont pas encore arrivés à C. Il y a d'autres qui sont arrivés à un C d'être alphabet. Mais il y a d'autres qui restent toujours au niveau A. Maintenant, quelqu'un qui reste au niveau A, pour lui, il pense tout simplement que l'église est un lieu de rencontre. Et quand il arrive, il dit, ah, aujourd'hui, on a bien chanté. Hein, on a bien chanté. Et puis, il transpire un peu. Ah, c'était bien, c'était bien. Et puis, il sort. Comment ça s'est été? C'était bien. De quoi? Qu'est-ce qui était bien? C'était bien. Et il y en a plein dans les églises comme ça. Et ces gens-là, c'est des gens à problème. C'est des gens à problème. Même 10 ans, 15 ans, 20 ans, c'est des gens à problème. Pourquoi? C'est parce qu'il n'a pas une profondeur. Il ne comprend rien. C'est un chauffeur de banc. Il dit, soyez puissamment fortifiés par mon esprit, par le Saint-Esprit, dans l'homme intérieur. On parle de l'homme intérieur. Dites l'homme intérieur. L'homme intérieur doit être puissamment fortifié par l'esprit. Ce qui veut dire, tu dois apprendre. Je dois apprendre à construire mon homme intérieur. La vraie personne que tu es est intérieure. La vraie personne que tu es est intérieure et on ne le voit pas. Souvent, nous voyons plus l'extérieur et nous faisons plus cas de notre homme extérieur. C'est pourquoi beaucoup de personnes font toutes les bêtises possibles tout simplement pour satisfaire leur corps. Mais ils ne savent pas que c'est des esprits. L'homme intérieur est esprit. L'homme intérieur est surnaturel. L'homme intérieur est surnaturel et esprit. Et comme l'homme intérieur est esprit, il est surnaturel. Il faut vraiment apprendre à faire la différence sur tes priorités. Parce que dans tes priorités, si tu prends plus soin de l'homme extérieur et que tu négliges l'homme intérieur, tu ne peux pas être fort même extérieur. Parce que l'homme intérieur n'est pas fort. Et comme l'homme intérieur est esprit, vous savez que le surnaturel influence toujours le naturel. Le surnaturel influence toujours le naturel. Vous savez que les choses visibles sont faites des choses invisibles. Tu ne peux pas être puissant. Tu ne peux pas être puissant extérieurement au moment où tu négliges ton homme intérieur. Comment peux-tu avancer? Comment peux-tu être fort extérieurement au moment où tu négliges ton homme intérieur? Dans notre corps ici, quand tu manges le dimanche et tu te dis, bon, j'ai mangé le dimanche, je vais attendre l'autre dimanche pour manger. Vous savez, lundi, mardi, mercredi, le jeudi, à d'autres personnes, il faut que les ambulances viennent le ramasser. Parce qu'ils ne tiendront pas. C'était des personnes qui savaient respecter leur petit déjeuner, dîner, souper, ainsi de suite. Sans compter toutes les biscottes et puis les yogourts. Bon, maintenant, quelqu'un qui était habitué à réglementer ses repas. Maintenant, lui dire que non, tu as mangé le dimanche, lundi, mardi, mercredi, tu ne manges pas. Jeudi, je vous l'ai dit, il y a d'autres, le lundi seulement, mardi, il va trembler. Bon, maintenant, attendre le dimanche. Et vous voyez, dans le physique, notre corps ne peut pas tenir à condition que tu aies un jeûne auquel Dieu t'a dit de faire. Qui entend? À condition qu'il ait une directive de Dieu. Dieu t'a dit de faire quelque chose. Même en le faisant, il faut être sûr que c'est Dieu. Parce qu'il y a beaucoup d'autres personnes, leurs corps se sont détruits. Parce qu'ils ont fait des jeûnes que Dieu ne les a pas demandé de faire. Et ils ont dit, non, je vais jeûner à sec. Mon ami, tu vas bousiller ton corps. Qui est là? Si Dieu ne te l'a pas dit, tu risques de te bousiller. Non, je reviens. Comment se fait-il que si notre corps physique, pour qu'il soit fort, nous devons le nourrir du lundi au dimanche, mais comment se fait-il que toi, l'homme intérieur, qui est la vraie personne, tu le nourris seulement que le dimanche? Tu lui donnes un petit repas. Un petit repas que tu lui donnes comme je suis en train de vous donner. Et puis finalement, tu passes lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Et puis tu viens encore manger un autre repas. Est-ce que croyez-vous que votre homme intérieur sera fort? Les amis, comme quelqu'un qui n'a pas mangé physiquement, arrivé vendredi, mettez-le devant quelqu'un qui a respecté ses repas et qui fait du sport. Dis-lui, affrontez-vous. Ça ne prendra pas combien de minutes. Il sera à terre. Qui a compris ça? Si dans le physique, c'est tel est le cas, je vais vous dire que dans le spirituel, tu peux fréquenter l'église. Mais si tu n'es pas fort dans ton homme intérieur, tu es une victime. Dites victime. Tu es une victime. Beaucoup de personnes sont des victimes. Beaucoup de personnes sont des victimes du diable. Beaucoup de personnes sont des vraies victimes. Vous les voyez avec des bibles. Vous les voyez, ils sont là. Mais c'est des victimes parce qu'ils ne prennent pas au sérieux de leur l'homme intérieur. Et c'est pourquoi, comme ils ne sont pas forts dans l'homme intérieur, à tel point, toute attaque qui leur surprendra va les écraser. Ils sont constamment intimidés par le diable. Ils sont complètement intimidés par toutes sortes de situations. Ils vivent l'intimidation. Parce qu'ils ne sont pas forts. Ils tremblotent. C'est des enfants qui souffrent de malnutrition. Vous savez, quand quelqu'un souffre de malnutrition, vous voyez seulement parfois, il y a une grosse tête. Et puis là, et il y en a des gens qui sont comme ça. Ils sont dans les églises, mais ils souffrent de malnutrition. Pourquoi? C'est parce qu'eux-mêmes, ils ne sont pas conscients qu'ils ont un homme intérieur. Maintenant, ils prennent plus soin de leur homme extérieur. Maintenant, l'homme intérieur n'est pas fort. Et comme l'homme intérieur n'est pas fort, il est maintenant victime. N'oubliez pas l'exemple que Jésus-Christ. Jésus-Christ a donné une parabole. Et cette parabole, il parlait d'une maison qui a été construite sur les sables et une maison qui a été construite sur les rocs. Deux maisons. Et la Bible dit que la première maison qui a été construite sur le sable, la Bible dit qu'il y a eu des ouragans, dites ouragans. Il y a eu Catherine spirituelle, et, il y a eu toutes sortes d'ouragans. Et quand les ouragans ont frappé cette maison, la Bible dit que la maison s'est écroulée et la perte était lamentable. Pourquoi? C'est parce que la personne a investi pour construire cette maison, même si la maison était sur le sable. Il a investi. Mais Jésus-Christ donne l'exemple de celui qui a construit la maison sur les rocs. Dites les rocs. Le roc, c'est Jésus. Le roc, c'est la pierre angulaire, c'est Jésus. Le roc, c'est la parole de Dieu. Cette personne-là, non pas, ce n'est pas qu'une personne seulement qui était là, qui écoutait. Mais quand il écoutait, il prenait note. Quand il retournait à la maison, il s'assoyait. Il s'assoyait et dit, attends, ce n'est pas des histoires qu'on nous a dit aujourd'hui. J'aimerais bien maintenant examiner comme les étudiants de Béret. Comme ces chrétiens-là qui nous ont précédés, qui examinaient ce qu'on les enseigne. Afin que je devienne fort et forte. Afin que je devienne puissant dans mon homme intérieur. Dieu veut que ton homme, ta personne intérieure soit fort. Si j'aurai le temps, je vais vous expliquer comment le devenir. Lisons un peu, lisons. Allez-y. Ah, Seigneur. Dites à la personne à côté de toi, mange spirituel, dis, mange. Jude chapitre 1, verset 20. Allez-y. Jude chapitre 1, verset 20. Jude 1, 20. Il dit, pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit. Il dit, pour vous, bien-aimés, vous édifiant, ce qui veut dire vous édifier, ce qui veut dire vous construire. Édifier veut dire construire. Jude dit ici, vous, les bien-aimés, vous qui avez accepté Jésus comme un Seigneur, vous devez apprendre à vous construire. Dites, mais construire. Il dit, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi. Vous savez que l'homme intérieur, pourquoi il dit vous édifiez vous-même par votre très sainte foi? C'est parce que l'homme naturel, l'homme spirituel, la nouvelle création que tu es, ne marche pas selon les cinq sens. La nouvelle personne que vous êtes, l'homme spirituel que vous êtes, lui il ne marche pas selon l'émotion, les sentiments, il ne marche pas selon la vie, il marche par la foi. Voyez-vous, la vraie personne que vous êtes, l'homme intérieur, l'homme spirituel, la nouvelle création que vous êtes, la nouvelle personne que vous êtes, lui ne marche pas par les yeux, il ne marche pas par les touchés, il ne marche pas par les sensations, il ne marche pas par ça. Mais lui, il marche selon la foi. Alors, comprenez bien. Notre corps physique ici marche selon ce qu'il voit. Notre corps physique marche selon ce qu'il touche, selon ce qu'il sent, selon ce qu'il goûte. Notre corps physique ici a cinq sens. Mais l'homme intérieur, qui est ton esprit, qui est la nouvelle personne, lui, il ne marche pas selon les cinq sens. Lui, il marche par la foi. C'est pourquoi il dit, vous devez vous construire dans votre très sainte foi. Vous devez vous construire dans votre très sainte foi. Il faut que votre être intérieur soit affermi, soit construit, mais par la foi. Plus bas, il dit, une des choses, c'est que vous devez apprendre à prier en esprit. Ah. Qui est là? Je disais qui est là. Non, je disais qui est là. Les amis, on parle d'une personne intérieure qui est en toi. Ah, l'espérance. Quand tu n'espères plus, c'est fini. L'espérance, c'est comme un cric. L'espérance, c'est comme quelque chose qui te soutient. La foi marche avec l'espérance. Ah, béni soit le nom du Seigneur. L'espérance, c'est cette chose-là qui te dit, il y a de l'espoir. Crois que ce que Dieu a dit va s'accomplir. Tiens bon, mais avec tes yeux, si tu regardes, tu vois que non, les situations ne changent pas comme moi je voulais. Mais l'espérance te dit, non, ne baisse pas les mains, sois patient. Ce que Dieu a dit, il va le faire. En fait, c'est l'espérance qui va te dire, qui va te réveiller le matin, tu te lèves, tu dis, bon. C'est parce que l'espérance est là, tu peux te lever, tu dis, non. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit à propos de ma guérison? Christ a pris ma maladie à la croix. Là, maintenant, tu te lèves. Satan, écoute-moi. Mon corps souffre pour le moment, mais je te le dis, il y a quelqu'un qui a pris la maladie à la croix. Christ a pris ma maladie à la croix. Tu n'as pas le droit de m'attaquer. Je brise cette maladie au nom de qui? De Jésus. Vous voyez, c'est l'espérance qui te donne le courage de... L'espérance te dit, non, espère que ce que Dieu a dit, ce que tu crois, que ce que Dieu a dit à propos de la guérison est vrai. Maintenant, patient. C'est l'espérance qui fait que quand tu penses, tu te regardes dans le physique, tu regardes, ta situation ne débloque pas. Tu regardes, mais l'âge avance, il n'y a rien qui change. Mais c'est l'espérance qui dit non, Dieu ne vient jamais en retard. Continue de croire, prends les promesses de Dieu, déclare-les, déclare, confesse. Mon Dieu n'a pas encore dit le dernier mot. Déclare. En fait, c'est l'espérance. Dès que tu perds l'espoir, dès que tu perds l'espérance, c'est fini. Et vous voyez, beaucoup de personnes maintenant, ils sont dans leur maison. Ils passent leur temps à bouder. Est-ce que vous savez que quand on manque l'espérance, on est prêt à se livrer n'importe quoi? Et la plupart des gens font n'importe quoi parce qu'ils ont perdu l'espérance. Maintenant, ils sont comme un poisson qui vient de sortir hors d'eau, qui est en train de sauter de gauche à droite pour se demander où se trouve l'eau. Parce qu'un poisson ne peut vivre que dans l'eau. Et beaucoup de personnes sont comme ça. Ils sont dans les églises, mais ils ont perdu l'espérance. Et comme ils ont perdu l'espérance, maintenant, ils dérapent. Parce que dès qu'on perd l'espérance, dans les promesses de Dieu, on dérape. Maintenant, le diable vient, il profite maintenant de dire, voyez-vous, pourquoi tu dois espérer encore? Tu n'as plus rien à espérer, c'est déjà trop tard. Alors, tous les démons viennent, c'est trop tard. Maintenant, tu dois agir comme bon te semble. C'est pourquoi vous voyez les gens maintenant commencer à prendre des décisions catastrophiques. Parce que maintenant, le diable leur montre tellement le désespoir. Là où il n'y a plus espérance, il y a désespoir. Et le désespoir pousse des gens à faire des actes. Le désespoir, c'est ça qui pousse des gens à prendre des décisions rapidement. Le désespoir, c'est ça qui pousse les gens à prendre des décisions sans imaginer, sans peser les pour et les contre, sans regarder, est-ce que cette relation, ça peut m'amener où? L'engagement que je vais prendre va m'amener où? Non, 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 non. Quand quelqu'un vit le désespoir, il est prêt à faire n'importe quoi. Le désespoir. Le désespoir. Le désespoir. Mais c'est un danger. Le désespoir. Quand tu lis dans la Bible, vous allez constater, il y a eu beaucoup de personnes qui ont eu du désespoir, qui ont désespéré. Et quand vous regardez les dégâts qu'ils ont faits à cause du désespoir, même quand Dieu est arrivé, et ils ont déjà tout gâché. Tout gâché. Tout gâché. Or, tout ce qui a été écrit d'avance, là, était pour notre instruction. Vous savez très bien que là où il y a instruction, Jésus-Christ, tout ce qu'il faisait quand quelqu'un venait auprès de lui, il lui donnait l'instruction. La fois passée, je vous ai expliqué quelque chose du prophète Élie. Dieu lui a dit, va à mon Horeb. Là, tu boiras de l'eau de la source. J'enverrai des corbeaux qui viendront te donner à manger. Il est parti là. Il a suivi. Il n'a pas discuté. Il a bu de l'eau et quelques temps après, l'eau a séché. Dieu lui dit, maintenant tu vas quitter là. Tu vas partir à Sarepta. Mais si le prophète a dit, mais Seigneur, mais toi tu es le Tout-Puissant, tu es souverain, tu peux me donner de l'eau à boire ici, tu peux faire que la source continue à couler, tu peux continuer que les corbeaux viennent. Le Dieu lui dit non, le temps que les corbeaux te nourrissent est fini. L'eau vient de sécher maintenant, je te dis, quitte-la, va à Sarepta. Je prépare une veuve, elle va te nourrir. Si l'homme de Dieu avait dit, non, tu es souverain, tu es le tout-puissant, tu es capable de faire les miracles ici, il allait gâcher, il allait mourir là-bas. Il fallait qu'il suive l'instruction de Dieu. Il a déplacé, il arrive à Sarepta. La Bible dit qu'arrivé à Sarepta, elle trouve une veuve qui est en train de ramasser du bois et lui dit, maintenant, fais-moi un gâteau. Quelqu'un peut dire amen. Les amis, tu sais que notre vie, ah, béni soit le nom du Seigneur. La vie que Dieu nous a donnée, si Dieu t'a donné 75 ans, 80 ans, ne jouez pas avec ces 80 ans-là. Maintenant, écoutez-moi bien, comme tu peux gâcher tout. Gloire à Dieu, vous savez qu'on peut mal commencer et puis bien finir. Et comme on peut bien commencer et puis mal finir. Il y a d'autres, parfois tu me dirais, mais pasteur, moi j'ai mal commencé. Mais Dieu te dit, tu peux recommencer aujourd'hui. Et puis finir très bien. Moi j'ai vu même des coureurs qui ont commencé dès qu'on a donné le départ. Pas bah, du coup, il y a d'autres qui ont accéléré. Mais il s'est ressaisi. Il a couru jusqu'à dépasser ceux qui étaient partis en grande vitesse. Vous savez, parfois tu te dis, j'ai tout gâché. Mais Dieu te dit ce soir, tu peux tout recommencer et rebâtir et dépasser même ceux qui sont partis avant toi. Mais l'instruction, dites l'instruction. L'instruction va te garder. L'instruction va te garder. L'instruction va te garder. Il dit tout ce qui a été écrit d'avance là était pour notre instruction. Afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, vous savez, la parole de Dieu donne une vie de patience. La parole de Dieu est une consolation. La parole de Dieu, quand on l'écoute, ça nous donne quoi? La patience. La parole de Dieu, quand on l'écoute, ça nous donne l'espérance. La parole de Dieu, quand on l'écoute, ça nous donne la foi. La parole de Dieu, quand on l'écoute, ça nous donne quoi? Une consolation. Attends, les gens peuvent vous consoler, mais la vraie parole qui peut te consoler, c'est la parole de Dieu. Vous savez, beaucoup de personnes parfois cherchent la consolation de gauche à droite. Eh ouais, à l'église, on ne me console pas. Attends, cherche à être consolé par Dieu. Cherche à être consolé par la parole de Dieu. Moi, ce qui me console, c'est la parole de Dieu. Parce que les gens peuvent te consoler aujourd'hui, demain, peuvent dire, ah non, on est fatigué de te consoler. On est fatigué. Mais alors que Dieu ne te dira jamais, je suis fatigué. Dieu te console jusqu'à l'accomplissement de ce qu'il a dit. Parce que de toute façon, ce n'est pas des humains qui t'ont fait la promesse. C'est Dieu qui a fait la promesse dans sa parole. Ce qui veut dire que comme c'est lui qui a fait la promesse, il faut aller te recevoir la consolation qui vient de lui. Comment? Par sa parole. Qui est là? C'est lui qui fait la promesse, c'est Dieu. C'est auprès de lui que tu dois chercher la consolation. C'est dans sa parole que tu dois chercher la consolation. Tu dois croire à ce qu'il dit. Tu dois t'appuyer à ce qu'il dit. Vous savez, les promesses de Dieu ne sont pas seulement pour le ciel. Les promesses de Dieu sont pour la réussite sur la terre avant d'aller au ciel. Ah non, je n'entends pas. Ah, tu me regardes parce que ta façon de voir est autre. Attends, je dis bien, les promesses de Dieu ne sont pas seulement pour le ciel. Les promesses que Dieu nous donne dans la Bible est d'abord pour la réussite sur la terre avant d'aller au ciel. La plupart des gens parfois qui enseignent, non, sur la terre il faut cramer, il faut marcher la poussière, il faut mordre la poussière, c'est parce qu'eux-mêmes, ils n'ont pas la foi pour croire aux promesses de Dieu. Je vous l'ai dit, ce n'est pas parce qu'on a un doctorat en théologie qu'on a la foi. Rien! On peut avoir un doctorat sans foi. La Bible dit, c'est des nuées sans eau. Qui est là? La foi, c'est quelque chose de personnel. Et tu peux voir qu'avec ton simple foi, avec ta foi, ta simple foi, une foi simple, et voir, tu es en train de monter dans le domaine où tu veux monter, tu es en train de monter même dans tes études, tu montes dans chaque domaine, tu montes, tu vois tout. Parce que la foi, ça crée une atmosphère. La foi, ça crée une plateforme qui change l'atmosphère. On continue? Lisons dans Marc chapitre 5, verset 28. Et puis on sort à 30. Marc 5, 28. Il dit ceci. Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Ici, on parle d'une dame qui a souffert pendant 12 ans. Dites 12 ans. Dites à la personne à côté de toi, toi, ton problème n'a pas encore atteint 12 ans. Mais pourquoi tu te fais des soucis? Mon ami, voyons donc. Toi, ton problème n'a pas encore atteint 12 ans. Tu commences à être démembré. Déconnecté, comprimé, opprimé. Attends, cette femme-là a souffert pendant 12 ans. Dites 12 ans. 12 ans. La Bible dit qu'elle a vidé tout son argent par des médecins. Dites des médecins. À leur époque, ils avaient des super médecins aussi. Mais la Bible dit qu'elle a tout vidé. Elle n'avait plus de réserves. Elle n'avait plus de réserves. Ce qui veut dire qu'elle était fatiguée. Est-ce que ça vous arrive de se retrouver dans une situation où tu vois qu'il n'y a plus une porte de sortie? Ça vous arrive, hein? Ah oui, il y a des situations, même moi aussi j'en ai vu. Ah, il y a des situations parfois qui nous arrivent dans la vie. À un certain moment, tu regardes et tu pèses le pour et le contre. Tu dis, il n'y a plus une porte de sortie. Mais non, quand tu dis qu'il n'y a plus une porte de sortie, il y a une porte de sortie. Parce que Dieu a toujours une porte de sortie. Loué soit le nom du Seigneur. Et cette femme-là, en pensant, elle se disait, il n'y a plus une porte de sortie. Vous savez, parfois, il y a des habitudes en toi. Quand tu penses ces habitudes, et tu sais que ça ne s'aligne pas avec la parole de Dieu, tu dis, oh, je suis abandonné sur mon sort. Il n'y a plus une porte de sortie. Dieu te dit, il y a une porte de sortie. Cette femme-là, elle se disait, il n'y a plus une porte de sortie. Mais il y a toujours un jour. Dites, il y a un jour. Vous savez, dans la vie, il y a toujours un jour. Tout à coup. Quand les Français, Voltaire dit tout à coup, ça veut dire, il y a un tout à coup. Et cette femme-là, tout à coup, elle a entendu. Dites, elle a entendu. Elle a entendu parler de Jésus. Si vous lisez l'histoire, vous allez entendre. Elle a entendu parler de Jésus. Son jour est arrivé. Il y a un jour qui t'arrive dans la vie. Il y a une journée. Tout ce qu'il te faut, patiente. Tout ce qu'il te faut, vis la consolation. Tout ce qu'il te faut, persévère. Tout ce qu'il te faut, fonce. Tout ce qu'il te faut, ne baisse pas les mains. Ne baisse pas. Ne te laisse pas impressionner. Ne te laisse pas influencer. Ne te laisse pas intimider par le diable. L'intimidation, si le diable t'intimide, intimide-le. Dis-lui, je ne suis pas intimidé par toi. Quand il vient dans tes pensées, il commence à t'intimider, tu lui dis, oh, calme-toi, le pasteur nous enseigne, tu es un intimidateur. Moi, si je suis un vrai intimidateur, je vais t'intimider. Oh! Faut savoir intimider le diable. Oh, non. Tu vois les gens sur son lit, avec son oreiller, il commence à chanter. Et tu lui dis, et le diable commence à lui. Il n'a même pas l'envie de quitter son lit. Le diable l'a déjà vaincu dans ses pensées. Tu vois la personne même transpirer là sur son oreiller. Il tremble. Il a peur même d'affronter la journée. Mais pourquoi ne pas bondir sur ton lit? Tu vas directement, tu te brosses à dents, tu commences à brosser. C'est la journée. Si tel est le cas, tu es en train de brosser, tu es en train de parler. Sikra mama korobo, sendrek, rakakakapa. Et puis dès que le diable entend ça, il dit, ouais, il ne fallait pas que je le réveille vraiment. Il va me créer du trouble. Moi, c'est ça que je fais. Quand la pression vient de la tête, je saute sur mon lit, je brosse les dents en priant langement, mandro koto sabrake, yembre ka kakra propra, yendra koto samire mreke si, rikotataya. Avant de terminer de brosser les dents, tout va bien. Quelqu'un peut dire amen. Les amis, je vous dis la vérité, que le diable doit les regretter. Et il n'a ni part ni héritage dans ta vie. Dis-lui, tu n'as ni part ni héritage. Je l'ai toujours dit par la grâce de Dieu, quand tu viens dans cet endroit, tu étais venu complètement down, quand tu vas sortir d'ici, tu vas... Il faut que tu montes. Parce que nous avons un Dieu puissant. Oh, les amis. N'acceptez pas que la journée te dit quoi. N'acceptez pas que le diable vienne frapper sur ton oreiller pour commencer à déverser ses mensonges. Oh, tu vois, c'est compliqué, hein, la vie, c'est compliqué. Tu dis, c'est compliqué par rapport à quoi? Tu ouvres la bouche, tu dis, c'est compliqué par rapport à quoi? Tu me provoques. Alors, c'est pourquoi il faut toujours mettre sur le mur, tu mets parfois 15 versets. Je suis la tête et non pas la queue. Je suis la prunelle de l'œil de Dieu. L'Éternel veille sur moi. L'aide de Dieu est sur moi, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Si une porte se ferme, il y a une porte qui s'ouvre. Ah, faites attention, je suis une nouvelle créature, il n'y a plus de condamnation sur moi. J'ai revêtu la justice de Christ. Ah, faites attention parce que Dieu ne me regarde pas selon la chair, mais il me voit en esprit. Je suis son... Quand tu termines, tu sens une paix qui surpasse toute intelligence. Et même là, quand tu entres dans la voiture, tu dis, c'est une autre personne. Mais vous savez, c'est un choix de le faire chaque jour. Parce qu'il y a d'autres journées, tu regardes seulement dehors. Le temps est moussade. Et toi-même, tu deviens moussade. Il ne fait pas beau dehors. Mais parce qu'il ne fait pas beau dehors, il doit faire beau à l'intérieur de toi. Je ne suis pas conduit par le temps qui fait dehors. Je suis conduit par le climat intérieur. du Saint-Esprit par la foi. C'est pourquoi je peux être fier. Tu peux être fier. Tu peux être un aventurier garçon qui vient. Ah ouais, tu as des beaux sourcils. Tais-toi. Beaux sourcils. Hein. Et puis tu dis que tu en as un peu. Et tu continues. Si tu veux le sérieux, viens me voir. Nous, on est un royaume des hommes et des femmes sérieux. Alors, si tu veux venir dans l'aventure, commencer à... n'importe quoi. Qui est là? Hey, il faut commencer. C'est toi qui dois donner. C'est toi qui dois créer l'atmosphère. Les amis, je vous l'ai dit, c'est toi qui dois créer l'atmosphère. Quand la Bible dit c'est la journée, quand David dit c'est la journée que le Seigneur a fait. Ne pensez pas que tout était rose. Hein? Non. C'est lui, il déclarait, il confessait. Tout n'était pas rose. Écoutez-moi bien. Quand David disait, c'est la journée que le Seigneur a fait. Ne pensez pas que tout était rose. Non, tout n'était pas rose. Mais lui, c'était un homme de foi et il criait. En chantant, c'est la journée. Il déclarait comment la journée devrait être. Il se mettait en contact avec Dieu. Il proclamait ce que la journée devrait être. C'est la journée. C'est une bonne journée. C'est la journée que le Seigneur a. Ce n'est pas le diable qui l'a créé, mais c'est le Seigneur. C'est mon papa qui l'a créé. Qu'elle soit pour moi une journée de joie, une journée de bonheur. Et directement, il chantait une journée de joie. Et il mettait une cassette là qui lui donnait la joie. S'il faisait 35 minutes là de voyagement, comme on le dit, il écoutait la louange et puis il chantait en langue. Mandoro yo korobo sai maina. Les babas sont derrière. Tu vois ça? Il coule, il coule, il coule. Et maintenant, vous le voyez au travail, il dit, oh. Cette fille, ce garçon, mais il a toujours l'air radieuse. Qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce qu'il vit vraiment ici à Montréal avec toutes ces factures, toutes ces affaires-là, manque de travail, licenciement, mais lui, elle rayonne toujours. Comment? Qu'est-ce qui ne va pas? Mais c'est parce qu'il est connecté, dites connecté. Il faut être connecté, il faut être branché. Les amis, les opportunités, je vous l'ai dit. Les amis, moi il y a des moments parfois, tu vois des portes s'ouvrir de gauche à droite, tu dis, mais je ne m'attendais pas à ça, mais je m'attendais par ça, par la foi. Tu vois des portes, vous savez, et le jour que les portes s'ouvrent, parfois, c'est inattendu. Tu vois ça, boum, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Mais gloire soit rendue à Dieu, gloire, parce que Dieu est au contrôle. Dites, Dieu est au contrôle. Quand Dieu est au contrôle de la vie de quelqu'un, les opportunités ne feront que venir. Même si ça a pris du temps. Dites même si ça a pris du temps. Est-ce que vous savez que parfois, il faut que les choses prennent du temps pour qu'on soit scié dans le scimitar de Dieu, pour que Dieu puisse nous façonner, nous arranger, briser un peu notre côté chair. La chair, ça pue. La chair. Il y a des moments, parfois, les choses doivent traîner. Parce que ça va briser un peu notre orgueil. Notre moi. Ah non, ça traîne. Ah oui, Dieu te connaît. Il connaît les fins fonds de ton cœur. Il va marteler un peu bien. Broyer un peu, te tourner. C'est comme l'argile entre les mains du potier. Dis, ah, ça fait mal. Dis, oui, je sais que tu es tellement... Je te broyer un peu. Mais quand la chose va arriver, tu dis, gloire à Dieu. Ce n'est ni par mes efforts, mais c'est sa grâce. Là, la gloire remonte à qui? À Dieu. Qui est là? Et vous savez que ça? Les chrétiens, les églises, je disais cela à un pasteur ce matin, il se plaignait, il m'appelait, il se plaignait. Je crois que je l'ai dit, je parlais avec le frère Francisco, on était en train de parler. Il a dit, on a un problème, les églises actuellement sont remplies de personnes imbies, sont remplies de personnes charnelles, ils ne sont pas brisés. Et vous savez, quand un chrétien n'est pas brisé, quand un chrétien n'est pas brisé, moindre n'importe quoi, il va se venger. Quand quelqu'un n'est pas brisé, il prend des décisions humaines, charnelles. Parce que c'est quelqu'un seulement qui est brisé qui peut dire, Seigneur, je ne vois pas, je ne sais pas pourquoi ça traîne, mais que toute la gloire revienne à toi. Est-ce que vous comprenez cela? Seigneur, je ne sais pas pourquoi telle chose m'arrive, mais c'est là, ce qui me dépasse ne te dépasse pas. Seigneur, que toute la gloire vienne à toi. Seigneur, je viens de vivre une injustice. Mais Seigneur, je ne veux pas vivre une rancune ou bien. Seigneur, que toute la gloire. Alors là, cette personne-là est brisée. Seigneur, je viens de vivre une déception. Une personne qui m'a promis. Mais maintenant, regardez comment il vient de m'abandonner. Et il est en train de parler de mal de moi. Mais Seigneur, je te remercie parce que tu ne fais rien par hasard. Que ta gloire revienne à toi. Tu ne vas pas dire, bon, maintenant, je vais te prouver. Tu m'as laissé. Ah, je vais te montrer, je suis belle. Je vais trouver quelqu'un d'autre et puis je vais défiler devant toi.
Voyez-vous, tu as fait n'importe quoi. Et tu vas aller ramasser un petit sorcier, un démon, parce que tu voulais te venger. Vous savez, quand on n'est pas brisé, on se venge. On a un esprit de vengeance. C'est les gens qui ne sont pas brisés, ils se vengent. Je vais lui montrer que je suis capable. Je veux lui montrer avec son sale drapeau diabolique. Je veux lui montrer que je suis capable. Là, c'est un combat où tu es seul. Dieu n'est pas dans ces combats. Qui est là? Qui est là? Vous savez, un jour, la Bible dit que le roi David était en train de fuir. Il fuyait parce que son fils venait de le détrôner. Maintenant, en fuyant, la Bible dit qu'il y avait un monsieur, je crois, Nabal, qui vient, qui commence à l'insulter. Chien! Chien! Ceci, cela! Et finalement, les gardes du corps de David dit, mes rois, comment tu peux permettre un chien mort comme ça t'insulter alors que nous, les gardes de corps, nous sommes là? Donnez l'ordre, on va lui couper un peu sa gorge. Et puis ça s'arrête là. David le regarde et dit, qui vous donne ce courage? Vous savez, parfois Dieu a permis à ces messieurs-là de m'insulter. En m'humiliant, au moins parfois Dieu aura pitié de moi. Laissez-les faire ce qu'ils veulent. Hello? C'est pourquoi Dieu appelle David l'homme selon mon cœur. C'est parce qu'il y a des moments, parfois, il se sentait écrasé. Il me disait, non, mon cœur, je vais la protéger. Je vais protéger mon cœur. Même ses gardes de corps le poussaient, dit, tuez-les, réglez l'affaire. Ce n'est pas lui qui peut te parler. Ce n'est pas lui. Oh non. Paix, on est là. Et David n'avait pas n'importe quel garde du corps. Quand on parle de trois héros de guerre, les trois vaillants héros de David, c'était comme des lions. Tu te rends compte, ils ont pu arriver sur un trou qui était entouré de soldats étrangers. Et les trois ont voyagé jusqu'à aller massacrer toute une armée, aller puiser l'eau que David, parce que David avait demandé de boire l'eau de ses citernes, alors que David savait que ses citernes étaient entourées par toute une armée des étrangers. Et les trois gardes du corps, quand ils ont dit, notre maître veut boire de l'eau, de la citerne, de Siloé, on y va. C'était comme des lions. Ils massacraient partout où ils passaient, jusqu'au moment où ils sont partis puiser l'eau. Quand ils sont venus, ils ont présenté au roi. Ils ont dit, non, je ne peux pas boire de l'eau que vous avez acquis par le prix du sang, parce que c'était votre vie qui était en danger. Et David dit, non. On ne peut pas tuer ces gars. Parfois, Dieu l'a permis de m'insulter. Et parfois, en m'insultant, je serai humilié. Et Dieu aurait pitié de moi. Il m'élèvera. Et c'est ça qui s'est passé. Écoutez, parfois, quand les gens vous insultent, quand les gens vous humilient, ils disent n'importe quoi, dites que le nom du Seigneur soit béni. Mais au moins, Dieu, dans ton humilité, il te relèvera. Quand il va te le relever, c'est ce même gens-là qui t'ont insulté qui verront comment Dieu t'a élevé. Et vous savez, ça fera tellement mal quand ils te verront élevé. Et là, c'est là où on voit que l'homme intérieur, quand l'homme intérieur n'est pas brisé, quand l'homme intérieur n'est pas fort, c'est la chair qui prend la décision. Quand l'homme intérieur n'est pas bâti, dites quand l'homme intérieur n'est pas construit. La construction de l'homme intérieur. Oh. Oh. Le verset 30. Verset 30, il dit ceci. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie. Non, on était en train de parler d'abord, je crois que là, j'expliquais le verset 28, je parlais de cette femme. Dans l'autre version, il disait, car cette femme-là se disait en elle-même. Elle se disait en elle-même, si je peux seulement toucher son habit. Vous entendez? Elle parlait, elle se disait en elle-même. Au fait, cette femme-là, après avoir entendu parler de Jésus, son homme intérieur était devenu puissant. Écoute, la parole de Dieu doit faire de ton homme intérieur une femme et un homme puissant. Et vous savez que quand l'homme intérieur devient fort, il ne marche plus selon ce qu'on voit. Il ne marche plus selon les émotions. Vous savez combien de chrétiens qui passent leur temps, ils sont dans les églises, mais comme ils sont conduits par les émotions, parce que leur homme intérieur est encore un bébé de 3 ans. L'homme intérieur, c'est un grand bébé. Parfois, 15 ans qu'ils sont dans le Seigneur, mais l'homme intérieur, sa vraie personne intérieurement, est un vrai bébé. Mince. Il n'est pas bien nourri. Il n'est pas bien nourri. Ah non, il n'est pas bien nourri. C'est parce que la personne nourrit plus son corps que l'homme intérieur. Et quand l'homme intérieur est mince, n'est pas bien nourri, même les décisions qu'on prend tout autour, ça ne fait que se manifester de l'extérieur. Regarde-moi, ce qui se manifeste extérieurement, c'est le fruit de ce qu'on est intérieurement. Qui est là? Quand tu vois les actes que vous voyez extérieurement, c'est le résultat de ce que l'homme est intérieurement. Qui est là? Quand quelqu'un pose des gestes, les gestes que vous voyez une personne poser, c'est le résultat de la maturité que la personne est intérieurement. C'est le résultat de ce que l'homme intérieur est. Quand l'homme intérieur n'est pas mature, même les actes qui se manifestent dehors, vous verrez que ce ne sont pas des actes de quelqu'un qui est mature. Vous allez voir, quelqu'un, exemple, qui fait des réunions, qui critique, qui est là toujours dans sa maison en train de critiquer. Vous savez qu'il porte un squelette en lui. Son homme intérieur n'est qu'un squelette. Et cette personne, le jour que le diable va le fracasser, il ne pourra pas faire face parce que son homme intérieur n'est pas fort. Il n'est pas fort. Il ne sait pas que sa bouche, c'est le lieu, c'est la place où Dieu lui a donné pour créer des choses par la foi. Amenez à les amis, la langue que vous voyez là, la langue, le jour que tu comprendras l'importance, le jour que tu comprendras l'importance de gérer ta langue, ta prière deviendra efficace. Des choses que tu vas déclarer vont arriver. Qui est là? Tu veux être fort, forte. Mais attends, discipline-toi sur ta langue. Ne fais pas de ta maison. Et vous savez, est-ce que vous savez que les paroles que nous déclarons dans nos maisons, quand, exemple, vous êtes en train de critiquer dans votre maison, vous parlez de mal de quelqu'un, vous êtes en train d'attirer une atmosphère. Vous ouvrez des portes à des démons. Parce qu'il y a des démons de critique. Et ils aiment ça. Et ils ont besoin d'utiliser des gens. Et quand ils constatent que dans votre maison, le critique règne, ils viennent, ils s'installent. Et incertainement, vous allez devenir possédé sans le savoir. Mais maintenant, la vraie délivrance, c'est toi-même qui peux le faire. C'est se repentir. C'est pourquoi vous voyez des personnes, ils peuvent même dire, je vais gêner. Mais comme sa langue, gêne plutôt par ta langue. Il y a des moments, non, je vais gêner 3 jours. Mais Dieu te dit, gêne ta langue. Fais gêner ta langue. Parfois, il y a des moments, il faut faire des gênes de mots. Tu es là. Dites ma bouche, aujourd'hui, tu ne dis rien. Tu vas la zipper. La Bible dit que la bouche qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Le vrai gêne que nous devons faire parfois, des gênes de notre langue. Savoir contrôler ta langue. Tu veux dire quelque chose, tu dis non. Là, tu vois, c'est synonyme de l'homme intérieur qui commence à prendre quoi? Du poids. L'homme intérieur commence à prendre quoi? De la vitamine. L'homme intérieur commence à être musclé. Quand l'homme intérieur commence à être fort, tu peux te mettre même devant quelqu'un, un aventurier qui te fait des avances. Tu lui regardes, tu dis non, ça ne m'intéresse pas. En fait, c'est ça qui a fait que Joseph, quand il était devant la femme de Potiphar, il a dit non, comment commettrais-je un tel péché devant mon Dieu et devant mon maître? C'est parce qu'il était fort intérieurement. Quand tu n'es pas fort, c'est pourquoi, les amis, nous allons partir même pendant un bon bout du temps avec cet enseignement de l'homme intérieur. Parce que les amis, les églises ont des problèmes parce que les gens sont là. Vous les voyez, ils sont là tous les dimanches, mais ils sont faibles, fragiles dans leur être intérieur. Ils ne sont pas nourris. C'est les soucis de la vie qui les agressent. Ils sont plus forts dans l'homme extérieur. Toutes leurs apparences, toutes leurs yeux, leurs ampoules sont fixées seulement sur leur vie de la terre. Et c'est pourquoi l'homme intérieur ne peut pas être nourri. Parce qu'il y a des moyens. Bientôt, je vais vous prêcher sur comment nourrir l'homme intérieur. L'homme intérieur peut être fort quand tu pries en langue. L'homme intérieur peut être fort quand tu confesses la parole de Dieu. L'homme intérieur peut être fort quand tu lis la parole, quand tu déclares, quand tu dis non, quand tu obéis à la parole de Dieu. L'homme intérieur ne fait que grandir. Il y a des moyens que Dieu nous donne pour faire que l'homme intérieur devienne fort. Qui comprend quelque chose? Non, je disais qui comprend quelque chose. Bon, aujourd'hui, on va arrêter d'abord ici. Dites avec moi, mon homme intérieur. Je veux voir ta croissance. Et je veux grandir dans mon homme intérieur. Je veux être fort dans mon fort intérieur. Cette femme-là a dit si seulement. Elle se disait à l'intérieur d'elle, si seulement je peux toucher. Et si vous lisez le verset 30, il dit ceci. Jésus connut aussitôt en lui-même, vous entendez, en lui-même, qu'une force était sortie de lui. Et se retournant au milieu de la foule, il dit, qui a touché mes vêtements? Mais plus loin, il dit, Jésus connut aussitôt en lui-même. Est-ce que vous savez? Attends, quand tu développes ton homme intérieur, quand tu commences à développer ton homme intérieur, il y a d'autres choses que tu peux sentir que les autres ne sentiront jamais. Un chrétien qui vient à l'église, qui vient seulement à l'église comme ça, qui ne bâtit pas, qui ne se discipline pas de mettre en pratique la parole de Dieu, de marcher selon la parole de Dieu. Ah non, 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 quand tu dis « Dieu m'a dit », tu dis « Pour qui il se prend ?» Il dit « Dieu lui a dit, Dieu lui a dit, Dieu lui a dit. » C'est comme ça. C'est parce que son homme intérieur n'est pas fort. Il ne comprend rien. Il ne comprend rien. Mais quand Jésus-Christ, la Bible dit qu'il sentit en lui-même qu'il y a quelque chose qui est sorti de lui. Il dit « Qui m'a touché ?» Qui m'a touché? Regardez-moi. Maintenant, les gens qui étaient tout autour de lui, a commencé à ses disciples. Il dit, mais maître, arrête ça. La foule là, toute la foule là qui te touche, tu veux dire que quelqu'un t'a touché? Mais attends, mais tu ne vois même pas les gens comment ils te touchent? Jésus-Christ s'est dit, non, ce n'est pas tous qui m'ont touché. Il y a d'autres qui m'ont touché pour toucher. Mais il y a quelqu'un qui m'a touché vraiment. Dans mon intimité, quelqu'un m'a touché. Il y a quelqu'un qui a appris quelque chose. Ah, vous savez. Mais la Bible dit que cette femme-là se disait, à l'intérieur, vous savez, quand l'intérieur et l'intérieur se rencontrent. Ah, parce que la dame se disait à l'intérieur de lui, si seulement je touche. Et Jésus-Christ, la Bible dit qu'il connut en lui-même, à l'intérieur de lui, que quelque chose venait de sortir. C'est seulement l'esprit qui connaît le monde spirituel. Le monde spirituel connaît le monde spirituel. Les hommes de foi peuvent connaître la foi. Mais des gens à sa sanction, des gens qui viennent seulement, alléluia, et puis il sort, il arrive dans la voiture. Tu as vu Albertine, ses cheveux, je n'aime pas. On lui fait écouter la parole, il sort, il rentre. Tu as vu comment ses cheveux étaient? C'est pas possible. Il sort de là, il sort, il commence à, ses cheveux étaient comme ça. Est-ce que tu étais venu pour les cheveux? Homme charnel, charnel, capa, charnel. Il est tellement cher que tout ce qu'il voit, comment les cheveux de l'autre étaient. Voyez, ces gens-là sont de vrais semeurs de pagailles dans les églises. Ils sont là, ils lèvent les mains, Dieu dit, je ne te connais pas. Une telle personne ne demandait même pas la prière. Heureusement, comme on n'a pas le discernement, on dit prions, prions. Et puis, vous savez, des personnes comme ça qui ne sont pas branchées, tu ne peux pas compter sur lui, sur sa prière. Parce qu'il est tellement rempli de la chair, qu'est-ce qu'il va te donner? Tout ce qu'il sait, lui, c'est la vie terrestre. Il vient seulement à l'église pour voir qui sont, comment ils ont tressé leurs cheveux, comment ils ont fait et comment ils ont fait. Il vient seulement dans les églises pour créer des problèmes aux gens. Et même quand il se prête de l'argent, il ne sait pas comment rembourser. Il vient seulement à l'église, règlement des comptes. Non, je ne faisais rien à la maison. Alors, je suis venu seulement. Alors, une telle personne, on peut prêcher. La personne peut te regarder avec ses deux yeux. Tu penses qu'il te suit. Rien, il n'est pas là. Les preuves, amis, que quand tu descendras, le diable va dire à un moment, attends, tu sais que tu as de sérieux problèmes. Oui, j'ai de sérieux problèmes. Le Saint-Esprit doit être attristé et dire, mais avec tout ce qu'il a entendu tout de suite là, comment il peut rester à ce niveau-là? Qui est là? Il faut grandir. Dites grandir. Dites, je vais grandir. Mon homme intérieur va prendre du poids. Je vais être fort intérieurement et je vais influencer mon extérieur. Au nom de Jésus. Lève-nous tous ensemble.
Nous vous remercions d'avoir écouté ce message. Pour plus d'informations, vous pouvez nous contacter au 514-931-2954 ou nous visiter sur Internet au www.christenaction.com.